Alors, généralement, ce qui se passe, vous sortez d'un truc de 30 ans, vous avez une nouvelle équipe qui arrive aux affaires. Comme c'est des domaines un peu, il y a les déchets, il y a l'eau et tout, c'est galère, personne n'en veut, c'est pas glorieux, il y a des emmerdements à ramasser. Bon, il y a quelqu'un qui se dévoue, qui est désigné par ses petits copains. Le malheureux ou la malheureuse, qui n'y connaît rien par définition, on ne peut pas lui reprocher parce que c'est un élu, c'est pas son boulot. Bon, il a un mandat de 5 ans, il n'y connaît rien. Hypothèse favorable, il s'intéresse, il est honnête, il est intègre, il est de gauche, il est de là. Bon. Il commence à s'intéresser. Le drame, c'est que plus. Alors déjà, il va falloir qu'il apprenne. Il va apprendre auprès de qui ? Auprès des services techniques. Les services techniques, ils n'ont pas l'agenda de l'élu. Eux, ils ont leurs intérêts, leur agenda. Bon, déjà, premier problème. Quelle masse d'informations va pouvoir récupérer l'élu auprès de ses services techniques ? Bon, qu'est-ce qu'ils vont bien vouloir lui donner ? Qu'est-ce qui est intéressant pour lui donner ? J'en passe, c'est les meilleurs. Dans le meilleur des cas, encore, tout le monde marche, c'est génial, on collabore, on coopère, Bon, il se passe deux ans et demi, on est déjà à la moitié du mandat, et notre élu, super-héros, Tarzan, machin, se dit, tiens, je vais faire bouger les choses. Alors là, c'est là que les embrouilles commencent, parce que ces petits copains de l'équipe qui l'ont élu, enfin machin, tout. Bon, attends, tu vas pas nous casser les pieds, on a déjà assez d'emmerdements comme ça, ça marche très bien, dégage. Plus il en sait, plus il devient bon, plus il a des embrouilles avec ses petits copains. Et quand ça suffit pas, c'est Solferino, c'est avance tes connais Fabien, ou c'est la rue de Lille, un mec qui dit, bon, ça va, tu vas arrêter de nous emmerder. Bon, c'est un vrai problème, ça. Hein. Et alors, il faut vraiment que le type soit, ou la femme, soit d'une, d'une intelligence, d'un courage, d'une foi politique, mais alors, inébranlable, en acier trempé, pour arriver à passer tous ces obstacles-là. Hein. Parce que c'est vraiment, c'est du Guéclin, Don Quichotte, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Alors, d'autant plus que, comme ça l'a été évoqué tout à l'heure, à peu près tous les organismes officiels sont totalement noyautés par Veolia, par Suez et compagnie. On dit souvent, en termes de plaisanterie, je l'ai écrit, donc je peux le redire, parce qu'ils m'ont pas poursuivi, encore moins obtenu ma condamnation pour ça, ces entreprises ont chez eux les meilleurs connaisseurs de la carte électorale française. Ils font des carrières de députés, de ministres, de sénateurs, etc. etc. Donc aller contre tout ça, alors dans la période, il y a quand même quelque chose de bien, c'est qu'on revient de très loin. Là, il y a des chiffres quand même. Il y a eu en 1993 la loi Sapin de moralisation de la vie politique, de lutte contre la corruption, moralisation des marchés publics, etc. etc. Bon, on est rentré là, loin. Un contre-coup de la loi Sapin dans une période qui a démarré il y a 3-4 ans, qui va durer jusqu'à 2010-2011. Chaque année, il y a 500 à 600 contrats qui arrivent à expiration. Parce qu'il y avait un certain nombre de contrats qui avaient été renouvelés à fond la caisse par voie d'avenant avant l'élaboration de la loi Sapin. Comme ça, ils avaient déjà gagné un peu de temps. Donc on est rentré dans une période intense. En ce moment, sur les 500 à 600 contrats qui arrivent à expiration chaque année, il y en a 95% qui se reconduit au même délégataire. C'était Veolia, ça reste Veolia. Il y en a 2 à 3% qui passent de Veolia à Suez, la peste ou le choléra, pas beaucoup d'avantages. Et il y en a, mais alors vraiment, ça se compte sur le doigt d'une main, ceux qui reviennent en gestion directe. Et en fait, il y a quelques affaires médiatisées, il y a quelques Don Quichotte, Kamikaze et tout, moi je les connais à peu près tous, hein, et ça passe à chaque fois. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il commence à y avoir des mecs de droite qui reviennent en gestion publique. Normalement, c'est pas le genre de beauté. Et pourquoi ? Simplement parce qu'ils en ont marre de se faire traiter comme des moins que rien, comme des chiens par des sacs, par ces chacals, mais qui les traitent, mais comme les derniers des larbins. Et les mecs, moi, j'adore, ils pètent les plombs. Littéralement, je connais un élu, dans une ville du Sud, ils en ont tellement marre de se faire traiter comme des carpettes, ils disent, non, pas moi. Et là, ça commence, c'est très marrant, hein, ça, et donc ça devient une affaire personnelle. Bref, il y a un autre phénomène moins visible, etc., c'est la montée en puissance de l'interco. Et ça commence à se développer, et en fait, là, ce qui se passe, c'est une nouvelle interco qui se crée. Enfin, là, il faut voir les transferts de compétences, etc., etc. Ce qui marche, c'est quand il y a un noyau dur qui est déjà en régie, parce que là, on oublie toujours de dire l'avantage incommensurable de la régie, c'est que quand vous êtes en régie, il n'y a pas de fin de contrat. Donc, quand vous êtes en régie, ça dure pour les siècles des siècles. Donc, vraiment, c'est un avantage, mais alors absolument incommensurable de la régie. Il n'y a pas de marché public, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de magouille. Vous êtes en régie pour l'éternité. Donc, c'est toujours bon de le rappeler. Et donc, dans une interco qui se constitue, si j'en ai été en voir une récemment dans l'Est de la France, c'est 12 communes, et il y en a 5 qui sont en régie. Donc les 5 qui sont en régie, même si c'est pas énorme, elles ont du personnel, elles ont des compétences, elles ont un peu d'argent, Donc, dans la nouvelle interco qui s'est faite dans le territoire, les 6 ou 7 qui restent, bah, ils attendent tranquillement la fin du contrat et hop, ils les récupèrent parce qu'ils peuvent les intégrer. Et petit à petit, comme ça, ils grossissent. Et ça, c'est quelque chose qui est pas, disons, dans le radar, opinion publique, dans le débat, etc., mais qui se développe pas mal. Et je pense que ça va beaucoup passer par ce biais-là. Et par le fait que, comme ça a été les grandes affaires médiatisées, Grenoble, Cherbourg, Neuchâtel, Castres, Bordeaux, bon, etc. Il y a tout un réseau qui se constitue quand même d'associations, de militants, etc. On se connaît tous, donc il y a un début de mutualisation. Mais ce qui fait cruellement défaut jusqu'ici, c'est le silence accablant des partis politiques, tous, pour qui on se mouille surtout pas là-dessus, sauf quand il pleut, et encore, là, le PS, par exemple, les Palinodis, là, depuis 2 ans, c'est oui, bon, ah, si, la doxa aujourd'hui, le discours officiel, c'est ceci. L'important, c'est la capacité de l'autorité organisatrice, parce qu'il y a tout la novlangue du secteur aussi, à contrôler l'activité des délégataires. Comment vous voulez contrôler l'activité des délégataires quand vous êtes une collectivité, que vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de personnel, etc., que vous avez des multinationales en face qui trichent littéralement sur tout. J'ai jamais vu un contrat dont les obligations contractuelles sont respectées. Et là, dans la période récente, à Bordeaux, à Bordeaux, il y a un cas encore d'élu PS, tiens, Monsieur Rousset, je ne suis pas PS, hein, qui est une espèce d'anomalie dans le secteur. Monsieur Rousset est élu à Bordeaux, à la CUB, il y a quelques années. Bon, il accepte de recevoir un militant de nos amis qui anime une association à Bordeaux, qui s'appelle Transcube, qui enquiquine Juppé depuis 10 ans, le tramway, machin, bon, et qui a développé un vrai savoir-faire sur l'eau et sur l'assainissement. Rousset accepte de les voir, alors que Juppé n'avait jamais voulu les voir, et Rousset a fait ce qu'aucun autre politique français n'a fait. Il a créé une véritable équipe d'incorruptibles. 6 personnes de la direction financière de la CUB. Le contrat de Bordeaux, contrat de la Lyonnaise, c'est un contrat historique. Il avait été signé par Chaman Delmas d'un côté et Jérôme Monod de l'autre. 40 ans que ça dure, l'association en question là, de nos amis a évalué le préjudice, c'est vrai, hein, pour les usagers bordelais à 400 millions d'euros en 40 ans. Bon. Rousset dit « Ok, j'y vais ». Il commence à demander des comptes à la Lyonnaise. Ça a duré 2 ans. Ils l'ont baladé, un an plus finir, etc., etc. Il a fallu que Rousset menace de saisir le tribunal pour obtenir des documents, simplement pour avoir accès. Et c'est le moment où la bande incorruptible de Rousset est remontée, non pas dans les comptes de la filiale régionale de la Lyonnaise, mais au niveau de la holding à Paris, qu'ils ont lâché. Et ils sont revenus. Bon, ils n'ont pas rendu les 400, mais ils ont rendu dans un premier temps 330. Donc là, cette situation-là, c'est quand même absolument invraisemblable. Rousset n'aurait pas fait ça. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué ce jour-là, mais enfin, très bien, etc. 330 millions d'euros qui passaient à la trappe. Et ça, c'est une situation dans tous les gros contrats des grandes collectivités. C'est pareil. À Lyon, on a la même chose. La Colombe vient d'essayer de s'en sortir en mettant en place une commission tripartite, en laissant ses centimes et tout, alors que les chiffres sont absolument accablants, quoi. Et donc, il y a un vrai problème. Il y a une faillite du politique face à ces questions-là, mais qui s'explique par rapport à l'historique de ces entreprises. Moi, j'ai un listing qui n'est en plus pas exhaustif d'un certain nombre de personnalités politiques bien connues dont on constate malheureusement depuis 30 ans qu'à chaque fois qu'ils connaissent un petit trou d'air dans leur carrière politique, ils se retrouvent conseillers de Veolia Suez à 200 000 balles par mois. Bon, ben voilà, il y a quand même des explications tout à fait claires et évidentes à cet état de fait. Mais dans la période qui s'ouvre, parce que c'est vrai qu'il y a une mobilisation croissante, il y a des collectifs partout, il y a ATTAC, il y a des collectifs d'usagers, il y a des environnementaux, il y a quand même des politiques qui se mouillent aussi, et disons, je pense que les choses vont changer, notamment à raison du fait que le montant de la facture d'eau va augmenter. Donc, comme dans l'opinion publique, les gens sont quand même pas dupes, vont demander des comptes de plus en plus, et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des nouveaux dispositifs, comme la... Il y a une loi en 92 qui a institué l'obligation de créer dans chaque collectivité une commission de plus de 20 000 habitants, une commission consultative des services publics locaux. C'est une instance très intéressante parce qu'elle doit se prononcer, certes à titre consultatif, dans tous les cas où une collectivité décide une délégation de services publics. Et ça permet aux représentants des associations qui y siègent de récupérer tous les documents officiels qu'on a beaucoup de mal à voir par ailleurs. Mais pour vous dire la réalité de la situation, c'est une loi de 1992 qui a fait obligation à toutes les collectivités de plus d'un 1 000 habitants de la créer. Il n'y a aujourd'hui que 30% des collectivités qui l'ont créée parce que la même loi qui la rendait obligatoire n'a prévu aucune sanction si d'aventure la collectivité n'a créé pas. Donc c'est dire le désir de transparence qui anime notre représentation nationale.